Catherine Audard, vous êtes une grande philosophe, une professeure à la London School of Economics et c'est la raison pour laquelle on vous entend peu sur les ondes françaises. Vous publiez une somme, La démocratie et la raison, chez Grasset. Mais puisque vous vivez à Londres, j'aimerais tout d'abord savoir ce que suscite le Brexit dont il a été question et dont il sera encore largement en question sur nos antennes, Catherine Audard.
Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Parler du Brexit, alors je suis en position d'outsider aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, donc c'est très intéressant de voir les choses avec un peu de recul. Alors le processus, si vous voulez, est douloureux. On peut le voir comme un désastre et c'est un peu le sentiment que j'ai eu au moment des résultats du référendum en 2016. Mais en même temps, il y a plusieurs choses à ajouter ici pour nuancer. Premièrement, je crois que ce qui s'est passé, le vote et le choc qu'a représenté ce rejet de l'Europe et ce vote négatif, a été un révélateur d'une situation extrêmement difficile au Royaume-Uni, mais un peu partout en Europe et aux États-Unis, à savoir la montée extraordinaire des inégalités. Le niveau d'inégalité au Royaume-Uni est quelque chose à la limite de l'obscénité, si vous voulez. Londres est un autre pays par rapport au reste du Royaume-Uni, et la situation est comparable un peu partout. Donc, si vous voulez, ce choc du Brexit, c'était un révélateur qui faisait écho aux élections de 2002 en France, à la montée du Front National, et un peu partout. Et aujourd'hui, je crois que hier, l'OCDE faisait un rapport sur les classes moyennes et leur situation de plus en plus précaire. Donc je crois que là, sur le plan politique, social, économique, ça a été un coup de semonce extraordinaire.
Et alors, lorsque vous revenez en France, Catherine Audard, avec cette crise sociale que vous avez suivie de l'autre côté de la Manche, qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous qui travaillez beaucoup sur un auteur dont on va reparler, John Rawls, qui a réfléchi toute sa vie à la question des inégalités et à une manière d'établir une société plus juste?
Tout à fait. Si vous voulez, quand la théorie de la justice a été publiée, enfin, je l'ai traduite en beaucoup plus tard, mais en 1971, il y a presque un demi-siècle.
Le livre de John Rawls.
Le livre de John Rawls, Théorie de la justice. Ce livre paraissait résulter d'un consensus, si vous voulez, social-démocrate dans les grandes démocraties.
Un livre extrêmement important à l'époque.
Extrêmement important pour toutes sortes de raisons. L'une d'entre elles était le renouveau de la philosophie politique classique. Mais l'autre aspect qui a intéressé les économistes...
On va peut-être vous apporter un thé, parce que voilà, vous venez de Londres, donc vous avez besoin d'un thé.
Le renouveau donc de la philosophie politique, mais surtout, essentiellement pour les économistes, mais je crois pour nous tous, l'idée d'un principe de justice novateur, en un sens, qui est le principe de différence, à savoir que égalité et liberté, qui sont des idéaux peu compatibles pour aussi bien le socialisme que le libéralisme, eh bien ces idéaux peuvent être conciliés si on prend comme ligne de conduite et comme règle la situation des plus défavorisés. Le principe de différence pose que les inégalités peuvent être justifiées tant qu'elles travaillent au bien de tous et en particulier des plus défavorisés.
Mais alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Catherine Audard, que le Brexit était la conséquence des inégalités obscènes, je vous cite, que l'on observe aujourd'hui en Angleterre. En France, observe-t-on la même chose, ou alors plus exactement, qu'observez-vous ?
Non, en France, les inégalités ne sont pas de même ampleur, puisque l'État social, l'État-providence, redistribue d'une façon assez efficace, c'est ce qui est le constat de toutes les observations, qui fait que la situation des plus fragiles est quand même protégée, si vous voulez, est améliorée. Mais le problème, en France et ailleurs, c'est celui des classes moyennes. Des classes moyennes qui voient leur perspective assombrie. Et je crois qu'en France, le problème de fond, c'est celui de l'éducation. L'éducation qui, en France, a été un ascenseur social extraordinaire, jusque dans les années 80-90. Et bien maintenant, tous les constats sur l'école sont quand même très inquiétants, à savoir que les inégalités sont reproduites en grande partie, par l'école, et la façon dont la sélection se fait dans l'enseignement primaire, secondaire, mais aussi dans cette obsession française du diplôme. Et là, il y a un contraste avec les pays anglo-saxons où les diplômes comptent, bien sûr, et les contacts, etc., acquis par les études, mais aussi les performances personnelles. Et on donne davantage leur chance aux individus que peut-être en France où malheureusement le statut protège pour toute la vie.
Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Votre livre s'intitule « La démocratie et la raison ». On a d'un côté un pays, l'Angleterre, où les inégalités, dites-vous, sont criantes. Le système éducatif est au cœur d'importantes polémiques. Les universités sont absolument hors de prix. Et il y a vraiment un système scolaire à deux vitesses. Vous me direz ce que vous pensez du système scolaire français. Mais en tout cas, le système scolaire anglais, c'est clair. Et cependant, la violence de la réaction sociale est aujourd'hui, disons, plus forte en France qu'en Angleterre. Comment l'expliquez-vous, Catherine Audard ?
Oui, alors là, les différences culturelles sont évidemment criantes. La France, j'ai chez moi un cartoon, c'est un petit dessin.
Une caricature.
Caricature, oui, dans laquelle The Guardian qui annonce des coupures budgétaires. D'un côté, le français dit il est temps de préparer des cocktails Molotov pour protester. De l'autre côté, le britannique dit allons, il faut préparer une tasse de thé, si vous voulez. Donc, il y a une différence culturelle immense, à savoir une histoire révolutionnaire qui fait partie de l'identité nationale en France et un pragmatisme, entre guillemets, classique dans la tradition britannique, bien sûr, pays protestant, pays catholique, pays plus autoritaire d'un côté, plus libéral de l'autre. Il y a des explications, si vous voulez, mais ceci dit, le niveau de violence au Royaume-Uni commence à être inquiétant. J'ai vu qu'il y a 2 semaines, une bombe a été posée sur les voies de chemin de fer, les voies ferrées, pour dire il faut conduire au déraillement du Brexit, si vous voulez, par quelqu'un, enfin un acte criminel. Bon, ça, on n'avait jamais vu ça. Et les menaces de mort à l'égard des députés, etc., ça, c'est un niveau de violence qu'on n'avait jamais vu.
Et sur le plan politique, vous qui vous intéressez à l'histoire des idées politiques, Catherine Audard, si on essaye de voir, par exemple, ce qu'il en est du statut de la gauche en Angleterre et en France, que diriez-vous ?
Je dirais que les choses ont évolué différemment. Le parti travailliste au Royaume-Uni reste très puissant parce qu'il est appuyé sur les syndicats. Donc, il a encore une implantation assez forte. Mais c'est un parti qui, comme en France, est divisé pour les mêmes raisons. Entre, d'un côté, un parti d'intellectuels de gauche, ce qu'on appelle le lobby d'Islington, si vous voulez. Et Jeremy Corbyn, d'une certaine façon, représente un peu cette tendance idéologue, et de l'autre une population qui traditionnellement votait pour le Labour et qui maintenant ne se reconnaît plus, si vous voulez, dans les questions identitaires, dans les questions culturelles, alors que les problèmes socio-économiques sont pour eux les plus importants, si vous voulez. Donc c'est un peu la même évolution que pour toutes les gauches européennes. Le fait que les gauches européennes se soient centrées sur les questions culturelles plutôt que sur les questions socio-économiques, de niveau de vie, de pouvoir d'achat, si vous voulez. Donc, mais ceci dit, le parti Labour reste encore un parti puissant, il n'y a pas de doute.
Mais alors, il y a quelque chose d'étonnant, en tout cas en France. On a l'impression, d'un côté, que le libéralisme sur lequel vous avez beaucoup travaillé est aujourd'hui une idée largement critiquée, même rejetée. C'est un peu un repoussoir en France quand on dit d'une idée qu'elle est libérale. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire que les idées de gauche soient extrêmement présente. En tout cas, on ne voit pas, par exemple, dans les sondages en perspective des élections européennes, une victoire écrasante des partis de gauche, alors même qu'il y a une protestation sociale en cours.
Oui. Alors, les deux grands partis, le parti conservateur, le parti Labour, sont tous les deux habités par une tentation de l'extrémisme. Le parti conservateur est en train de se ukipiser, c'est-à-dire de devenir un parti vraiment de plus en plus proche du Front National, si vous voulez. Donc, et la même chose pour le Labour, où les forces extrémistes sont de plus en plus puissantes. Alors, il y a une radicalisation qui correspond au mécontentement, si vous voulez, des classes moyennes que nous évoquions tout à l'heure. Quant au libéralisme, alors la question est très complexe puisqu'il y a des libéralismes, c'est pas du tout une idéologie homogène.
C'est-à-dire
des libéralistes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'ultra-libéralisme. Je n'aime pas employer le terme néolibéralisme qui est devenu un fourre-tout, si vous voulez, mais je parlerai plutôt de libertarien ou d'ultra-libéralisme d'un côté, dans lequel l'intervention de l'État doit être minimale, et puis un libéralisme social qui a été très important, qui reste très important, dont justement John Rawls est un des représentants, et qui essaye d'allier le maximum de liberté individuelle, de protection des libertés personnelles, liberté civile, et en même temps le maximum d'égalité sociale. Donc les deux ensemble, ce qui est évidemment une gageure. Mais donc le libéralisme est-il en crise? Alors, je dois dire que depuis 2-3 ans, il y a eu une attaque en règle contre le libéralisme qui serait responsable des situations actuelles, des inégalités, etc., etc. Alors, c'est un bouc émissaire très facile. En réalité, je pense qu'il y a eu certainement de la complaisance, c'est-à-dire que à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de l'échec patent du communisme, la défense des idées libérales a pris de l'ampleur et une certaine complaisance, sans se rendre compte que une démocratie, c'est pas simplement un système de gouvernement, c'est un type de société, comme Tocqueville l'avait analysé, mais c'est aussi une culture. Et une culture qui se transmet et qui est fragile et qui peut se dégrader très rapidement. Les idées libérales qui paraissaient faire l'objet d'un consensus, je parle là, si vous voulez, du consensus social-démocrate, d'alliance des libertés et de l'égalité sociale, ce consensus est très fragile. Et il a été effectivement mis à l'épreuve par la mondialisation, par la montée des inégalités, sans que, probablement, les élites politiques se soient vraiment suffisamment inquiétées. Donc il y a un travail, et je pense que là, c'est pour ça que je parle de l'actualité de John Rawls, il y a un travail incessant pour revenir sans cesse sur les fondamentaux. C'est-à-dire pour sans cesse comprendre que la culture politique est à l'avant-garde. C'est vraiment la base de la stabilité des démocraties.
Catherine Audard, si vous deviez nous donner une ou plusieurs mesures inspirées de John Rawls, qu'est-ce que vous nous donneriez comme exemple ?
Ah, très bonne question, oui, parce que là, c'est toujours l'épreuve des faits pour le philosophe. Eh bien, je vois deux mesures phares. La première serait de transcrire dans la vie politique concrète l'idée de délibération. Alors, on parle beaucoup en ce moment de démocratie délibérative. Eh bien, je me suis étonnée du fait que personne n'a mentionné une initiative qui a été prise, mais peut-être pas suivie suffisamment, mais qui a été prise à la suite de recherches sociologiques, de sociologie électorale, c'est ce qu'on appelle Deliberation Day, un jour de délibération. La mesure suivante, avant les grandes élections, comme l'élection présidentielle ou le référendum du Brexit, une semaine avant ces grandes élections, il devrait y avoir un jour réservé pour que la population puisse échanger sur les enjeux du vote. Un jour entier qui serait chômé, qui serait payé, si vous voulez, ou en tout cas compensé, dans lequel les gens pourraient se rencontrer de façon organisée, c'est vraiment quelque chose à institutionnaliser, se rencontrer, s'informer, c'est le numéro un, puisque dans le Brexit, l'information a été nulle, personne n'a parlé de l'Irlande du Nord, de la frontière, s'informer, dialoguer, se rencontrer des gens qu'on ne rencontre jamais, comme cela se fait sur les ronds-points en ce moment des Gilets jaunes, s'informer, dialoguer et ensuite délibérer, c'est-à-dire arriver à des solutions. Ça serait la première mesure que je verrais.
Et on va faire régner le suspense parce qu'on va parler de la deuxième mesure, mais dans une quinzaine de minutes, Catherine Audard. La démocratie et la raison, c'est la somme que vous venez de publier chez Grasset, où il est question notamment des inégalités et de la manière dont on peut articuler une conversation nationale pour tenter de remédier à ces inégalités criantes que vous percevez aujourd'hui. au Royaume-Uni, vous serez rejointe par une économiste, Claudia Seni, qui elle a beaucoup réfléchi au bonheur et à leur lien avec les inégalités. Il est 8h sur France Culture. Je vous donnerai dans quelques instants le livre de Catherine Audard, notre invitée, La démocratie et la raison, un livre où il est question notamment de politique et d'inégalité. Elle est dans ce studio, elle est philosophe et professeure à la London School of Economics et à ses côtés, nous accueillons une économiste, Claudia Seni. Bonjour Claudia Seni. Catherine Audard, on vous a quitté il y a quelques instants, vous alliez évoquer une seconde mesure qui vous paraissait extrêmement propice, dictée par un philosophe, John Rawls. John Rawls est un grand théoricien de la social-démocratie. Son œuvre majeure évoque la question des inégalités, une question qui est au cœur du débat politique en Angleterre, puisque vous êtes londonienne, mais aussi en France, bien entendu, au travers de la crise des Gilets jaunes. Quelle était sa seconde proposition concrète?
Alors, la seconde proposition que je développe dans un chapitre de mon livre, c'est celle de la démocratie de propriétaire. Il s'agit d'un type de mesure qui est distincte du revenu universel, c'est la dotation initiale. C'est-à-dire que la lutte contre les inégalités, la plus efficace, s'attaque aux sources des inégalités en capital, en patrimoine. Donc, redistribuer du capital et pas simplement des revenus tout au long de la vie, de façon à donner à chaque jeune, puisque le projet était de donner une dotation à 18 ans, donner à chaque jeune la possibilité de continuer des études, de s'établir, de créer une entreprise, d'avoir une certaine autonomie et cette dotation initiale financée par un impôt sur l'héritage, un impôt sur les successions beaucoup plus élevé, un taux beaucoup plus élevé que ceux qui sont pratiqués actuellement. Alors l'idée, c'est de s'attaquer vraiment aux sources des inégalités et là on rejoint Thomas Piketty et son analyse de patrimoine et pas simplement de revenus.
Est-ce que 18 ans, ça n'est pas trop tard, Catherine Audard?
Alors, si vous voulez, le projet de Bruce Ackerman de la Stakeholder Society, la société des ayants droit, c'est un projet, si vous voulez, qui est à discuter, qui est à mettre sur la table. Lui, il avait le projet de donner à la majorité civique un patrimoine qui permettrait d'exercer la citoyenneté. Et donc d'être dans une position de force sur le marché du travail, par exemple, ou sur le marché de l'éducation, etc. Donc nourrir l'autonomie des individus dans une démocratie libérale, entre guillemets.
Qu'en pense l'économiste Claudia Seni?
Ça m'a l'air d'un projet merveilleux. La question du financement se pose immédiatement.
Donc, ce qui, en revanche, est clair, c'est qu'on voit au travers de toutes ces idées qui actuellement sont dans l'air, revenu universel, la question de plus taxer l'héritage parce que celui-ci serait à l'origine donc des inégalités, le fait de voir qu'il y a un vrai problème de reproduction des classes sociales. Bref, tout cela contribue à rendre nos sociétés plus inégalitaires et plus malheureuses. Et par rapport à ça, Claudia Seni, quelles sont les voies qui nous sont offertes aujourd'hui et que rendrait en quelque sorte impérative, urgente, la crise des Gilets jaunes?
Je crois que la tolérance des inégalités dépend de la manière dont les gens les représentent et de ce qu'elles offrent aussi pour eux. C'est-à-dire que selon qu'elles sont perçues comme étant inexorables, données, et puis fixées une fois pour toutes, ou au contraire, synonymes d'opportunités, de possibilités pour soi de progresser, elles suscitent des réactions complètement différentes. Donc je crois qu'il y a une question de redistribution, fiscalité, etc. Mais il y a aussi une question de donner aux gens la possibilité de réaliser leurs projets et d'épanouir leurs propres capacités.
Donc pour réussir à faire cela, il faut essayer d'accompagner les individus qui n'ont pas en quelque sorte la possibilité d'avoir été accompagnés par la Providence ou par leur naissance tout simplement.
Bien entendu, oui. Ah, oui.
Votre point de vue, Catherine
Audin? L'égalité des chances est le projet de la modernité, si vous voulez. Bon, supprimer tout ce qui est freine le développement de soi en raison de l'origine sociale, de la naissance, etc. Mais le fait que l'héritage, si vous voulez, crée de telles différences dès le départ, et en fait que les talents naturelle, personnelle, ne puisse pas se développer si au départ, justement, il n'y a pas cette sécurité et ces possibilités, l'égalité des chances peut conduire à des inégalités injustes et qui font souffrir les gens qui se disent, au fond, on a soi-disant eu des chances de réussir et on n'y arrive pas. Pourquoi ? Voilà. C'est pour ça que cette idée de dotation initiale me paraît soutenir et étoffer et socialiser l'égalité des chances dans ce qui a des côtés trop individualistes, si vous voulez.
Claudia Sénic, pourquoi certaines sociétés supportent-elles mieux, en tout cas en apparence, les inégalités ?
Justement, en fait, depuis plus de 10 ans ou 15 ans, des enquêtes ont montré que les Américains, par exemple, se représentent la société, les inégalités, de manière complètement différente des Européens. Il y a une enquête très récente qui vient d'être faite par Alberto Alesina, un professeur d'Harvard, et puis ses co-auteurs, qui montre qu'encore aujourd'hui, les Américains surestiment la mobilité sociale, c'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un qui est né en bas de l'échelle de monter et d'atteindre une position moyenne ou élevée. Ils la surestiment et les Européens, en revanche, la sous-estiment. Donc si on se représente la société comme quelque chose, un ensemble qui n'offre pas la possibilité de progresser, qui m'offre pas de perspective, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, ces inégalités, comme vous dites, elles sont injustes, puisque tout le monde n'est pas soumis à la même règle, et donc je veux les corriger. Donc je veux plus de redistribution, plus de taxation, plus d'impôts, plus de fiscalité. Et au contraire, si inégalité c'est opportunité, à ce moment-là, je suis d'accord.
Catherine Audard.
Je pense que la grande différence tient à la perception de l'individualité. C'est-à-dire que l'individualisme dans les sociétés comme la France est quelque chose qui est perçu négativement, hein, qui est synonyme d'égoïsme, alors que dans d'autres sociétés, on fait confiance à l'individu pour justement se développer, mais aussi acquérir un sens de la justice, un sens civique qui fait que le développement de soi ne contredit pas nécessairement le développement d'autrui. Et là, je crois que c'est vraiment, là encore, une question de culture et de valeur. Je suis bien d'accord avec Claudia, c'est la représentation des inégalités qui est source de souffrance encore. Au moins autant que la réalité.
Mais alors, c'est étonnant parce que nous avons un rapport complexe avec l'individualité. Parmi les mesures qui suscitent la colère, alors la colère d'un certain nombre de Français, pas tous les Français, il y a par exemple les 80 km/h sur les routes. Et là, votre point de vue là-dessus, Catherine Audard.
C'est tout à fait typique parce que la révolte contre les 80 km/h, elle se comprend bien sûr, elle est légitime du point de vue proprement personnel, si vous voulez, sans prendre en compte la dimension collective.
Eh ben oui, donc il faut être très individualiste.
Mais alors voilà. Alors si vous voulez, c'est cette difficulté de comprendre que l'individu n'est pas nécessairement égocentrique, qu'il peut manifester un altruisme limité. Là, je crois qu'on
Claudia se rejoint. Ah oui. Je crois que vous avez effectivement quelque chose à dire à ce sujet.
Oui, non, parce que c'est le rapport entre les inégalités et la perception de faire partie d'un tout et du lien social. En fait, on s'est rendu compte aussi que si on se représente comme étant partie d'un tout, l'impôt sert en partie à assurer la solidarité entre les membres du groupe. Donc je suis d'accord pour payer l'impôt pour aider les membres de mon groupe qui sont dans une situation plus précaire ou qui ont besoin, etc. À condition que je les reconnaisse comme un membre de mon groupe, c'est-à-dire un autre moi-même possible. J'aurais pu être à sa place ou mes enfants pourront être à sa place. Donc c'est un autre moi-même. Jusqu'où va cet ensemble des autres envers qui je me sens solidaire et où s'arrête où est la limite. Et peut-être que quand la société se fragmente ou quand les gens ont l'impression qu'elle se fragmente, finalement, qu'il n'y a plus de société, que finalement, moi, je fais partie de... certains font partie de l'élite mondialisée qui n'est plus nationale. Et puis les autres se représentent comme étant la France périphérique qui... etc. À ce moment-là, la disposition à payer l'impôt pour être solidaire de ses membres peut disparaître. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux entre... si les inégalités deviennent trop importantes à certains endroits, à ce moment-là, le sentiment du lien social se dissipe et peut-être la volonté de payer les impôts se réduit également et du coup, il y a moins de solidarité, etc.
Mais alors justement,
on peut craindre que tomber dans un cercle vicieux de cette sorte.
Alors, oui, Catherine Audard. Alors c'est vraiment sur ce point que la délibération publique, la conversation publique est absolument centrale. Parce que c'est un mythe, cette idée de l'autre qui me ressemblerait, et pour cette raison j'accepterais de redistribuer. C'est un mythe parce qu'il n'y a pas d'identité. Nous vivons dans des sociétés pluralistes. Cette identité, elle n'est pas donnée, elle est à construire sans cesse. Et c'est là que la conversation publique, que le débat public est absolument crucial. Et c'est là que nous sommes
en panne. Donnez-nous des exemples.
Complète. Mais si vous voulez, je parlais tout à l'heure de cette possibilité d'avoir un jour de délibération. On rencontre et on dialogue.
Vous l'évoquiez, je le rappelle aux auditeurs, la possibilité avant un scrutin d'avoir un jour payé ou compensé, qui permettrait à tous les citoyens d'un pays de dialoguer sur les buts d'un scrutin, d'une élection particulière.
Absolument. Et ça serait un moment, justement, où des gens qui ne se connaissent pas, n'ont pas la moindre idée de ce que les autres vivent, etc., se rencontreraient. Et en fait, ce que Bruce Ackerman décrit dans son article, c'est une transformation extraordinaire où l'on voit, par exemple, un Américain raciste du Sud, etc., dialoguer avec une femme noire qui vit de l'assurance sociale et découvrir après qu'il s'était complètement trompé, que tous ces clichés avaient été basculés, si vous voulez.
Ça fait écho. Qu'en pensez-vous, Claudia? Non, mais ça fait écho à plusieurs articles des mêmes chercheurs américains qui utilisent des enquêtes américaines où, dans ces enquêtes, on pose une question aux gens. Est-ce que vous avez, parce que en fait, ce problème d'altruisme limité aux États-Unis, c'est
d'altruisme limité. Il faut juste définir.
Cette idée que je veux bien redistribuer, mais uniquement envers les gens de mon groupe, ça a été développé au début dans le cadre américain, à cause de la séparation entre blancs et noirs. Donc il y a une question dans l'enquête qui dit: est-ce que vous avez dîné avec une personne noire au cours de l'année dernière? Et les gens qui répondent oui sont beaucoup plus favorables à l'impôt que ceux qui disent non. C'est-à-dire que, parce que tout à coup, ça fait, les blancs et les noirs font partie du même groupe.
Mais un très bon exemple dans le même sens, on avait interrogé un échantillon de population, un focus group, sur l'aide internationale. La majorité, l'immense majorité du groupe était contre l'aide internationale, disant c'est du gâchis, d'abord on dépense beaucoup trop, etc. Une fois informé, découvrant qu'on ne dépense que même pas 1% du budget national, et découvrant les bénéfices de l'aide internationale, au bout du débat, au bout d'une journée de débat, ils avaient changé complètement leur point de vue, si vous voulez. Donc, quand je parle de rationalité dans mon livre « La démocratie et la raison », c'est ça dont je veux parler, à savoir cette possibilité de remplacer les sentiments bruts, les opinions brutes, par des opinions argumentées et informées. Et ça, ça prend du temps. C'est pour ça que je parle d'une journée de délibération.
Mais alors, justement, à la faveur de la crise des Gilets jaunes, il y a deux idées, en tout cas, une idée évidente. Ça a été l'approbation forte pour le retour de l'ISF, Claudia Sénic. Et puis, dans le même temps, on voit que la France est une société, finalement, qui a de plus en plus de problèmes avec la redistribution. Un sondage que j'ai souvent cité parce qu'il m'a particulièrement frappé, et le refus de l'assistanat. Alors, dès lors qu'on parle d'assistanat, c'est évidemment péjoratif. Et le fait de demander dans un sondage si les gens sont favorables ou pas à l'assistanat est évidemment un biais clair. Mais on voit qu'on a, dans ces conditions, 73% des Français qui sont contre. Est-ce que ça n'est pas là aussi le signe d'une évolution dans le rapport à l'altruisme ou à la générosité collective?
Oui, c'est ça. Tout le monde voudrait moins d'impôts et plus de services publics. Bien entendu, hein, si on peut, en augmentant l'efficacité, pourquoi pas. Mais c'est peut-être encore le symptôme de la même chose, c'est-à-dire cette impression que, ok, je veux bien contribuer, mais quel est ce bien commun, quel est ce projet commun auquel cette contribution va servir finalement, est-ce que je continue à profiter, à recevoir les bénéfices de ces services publics? Est-ce que l'école est encore bonne pour moi? Et les gens se représentent, certainement par grande partie à tort, hein, une situation dans laquelle finalement, eux, n'en profitent plus tellement, j'imagine.
On continue d'évoquer la question des inégalités et de la démocratie en compagnie d'une économiste, Claudia Sénic, et d'une philosophe, Catherine Audard. Votre livre, La démocratie et la raison. Justement, la raison et la manière, c'est ce que l'on a vu à l'œuvre dans le grand débat, dans les dialogues sur les ronds-points. Bref, comment organiser une conversation rationnelle? Faut-il qu'elle soit rationnelle d'ailleurs en démocratie, Catherine Audard?
Oui, alors... Là, je vais faire un peu de philosophie et faire une distinction, en suivant Emmanuel Kant, entre la raison théorique et la raison pratique. La pensée des Lumières a mis la raison au sens théorique, c'est-à-dire la raison comme moyen d'accroître nos connaissances sur le monde, au centre de la démocratie ou de la République ou de l'idée d'éducation. C'est-à-dire conduire le peuple vers les Lumières lui permettra de se gouverner lui-même, puisque c'est le programme kantien, si vous voulez, d'autonomie politique. Le génie de Kant a été de faire une distinction entre la raison théorique appliquée dans les sciences est la raison pratique. Et la raison pratique, c'est elle qui est à l'œuvre dans la démocratie en réalité, et sur les ronds-points dont vous parliez, ou sur, dans la conversation publique. La raison pratique, c'est la possibilité, c'est l'outil qui nous permet de réaliser ou de mettre en pratique une idée. Une idée, et donc ça n'est pas un moyen de connaissance, c'est un moyen d'action. Et c'est cette raison pratique qui nous appartient à tous. Elle n'est pas le monopole des savants. Si vous voulez, ce que je voudrais dire ici, c'est que la démocratie, ça n'est pas une reine des savants ou des sachants, c'est-à-dire d'une élite mieux informée que le reste, mais l'exercice, le lieu d'exercice de la raison de chacun d'entre nous dans sa pratique quotidienne.
Mais alors, justement, parce que vous habitez Londres, Catherine Audard, alors aujourd'hui nous avons le Brexit, et alors on entend certains dire, le peuple a choisi, il a choisi le Brexit, et il a mal choisi, parce qu'avec le Brexit, eh bien tout cela roule comme une roue carrée, bref, le peuple n'est pas rationnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'argument ?
Alors, j'aurais une position un peu plus nuancée. Le peuple n'est pas rationnel, sûrement pas. En fait, les gens qui ont voté pour partir avaient de bonnes raisons. Et des raisons pour certains tout à fait légitimes, au sens que j'évoquais tout à l'heure, d'une situation économique dégradée pour toute une partie du pays. Je parlais d'inégalités obscènes. Et ça, je crois que moi, je le constate quotidiennement, quelque chose d'inacceptable. Donc, en fait, les gens qui ont voté pour partir ont voté pour de bonnes raisons. Mais ils ont voté contre l'Europe sans savoir ce qu'était l'Europe. Et en particulier des populations qui dépendent de l'aide européenne, des fonds structuraux de redistribution européenne, ont voté contre l'Europe, si vous voulez. Alors ça, c'est vraiment là une question d'information. On peut être rationnel, mais encore faut-il être bien informé.
Et justement, dans la question de la rationalité, vous évoquez toutes les deux la montée des inégalités, la manière dont les peuples souffrent de ces inégalités. Pourquoi, puisque vous êtes économiste, Claudia Sénic, pourquoi n'assiste-t-on pas aujourd'hui à une remise à plat de ces systèmes fiscaux qui pourraient redistribuer la richesse ? Aux États-Unis, c'est même à l'inverse que l'on assiste, c'est-à-dire un système fiscal qui privilégie les plus riches. Comment expliquez-vous cela ?
Non, mais le système fiscal est extrêmement complexe et dès qu'on veut le remettre à plat, on se rend compte qu'il y a plein de petites contraintes, obstacles, etc. Enfin, je pense que... Non, et puis au-delà de ça, je pense que là, il n'y a peut-être pas justement suffisamment d'accord pour aller vers un certain projet pour que les gens se... Il y a forcément des gagnants et des perdants dans chaque réforme fiscale. Donc pour compenser les perdants ou pour accepter qu'ils adhèrent au projet, il faut quand même que ce soit suffisamment convaincant.
Catherine Audard.
Thomas Piketty a une réponse à ça. Il montre à quel point les classes, les 1%, se sont emparés du pouvoir politique. Quand la Cour suprême a autorisé le financement des campagnes sans limite par des individus ou des corporations, je veux dire, on a ouvert la voie à la prise de pouvoir politique par les 1%, qui ont finalement protégé leur niveau de revenus tout à fait extravagant et les rémunérations dans les entreprises, les dirigeants d'entreprises, etc. Donc, si vous voulez, c'est une question politique, c'est pas seulement une question économique.
Mais c'est là aussi où la question de la rationalité devient une question politique, puisque évidemment, le fait de qualifier une mesure d'irrationnelle est une manière de la disqualifier. Et aujourd'hui, on voit que l'on a des systèmes qui sont extrêmement inégalitaires, qui sont proposés ou présentés comme rationnels, alors que leur rationalité pourrait être en réalité remise en doute, Catherine Audard.
Tout à fait, et en particulier, il y a cette idée du ruissellement. L'idée que l'enrichissement des plus riches va bénéficier au reste de la société, ce qui est erroné. Sans intervention de l'État, il n'y a pas d'effet de ruissellement. Là, je pense que Claudia serait d'accord avec moi. Peut-être on peut en discuter. Non, mais enfin, c'est ça, cette rationalisation de l'enrichissement des plus riches, qui est une justification en disant finalement ça va profiter à l'ensemble de la société. Et c'est là-dessus que les États devraient réfléchir jusqu'à quel point cette théorie est erronée ou pas.
Votre point de vue, Claudia Sénic ?
Ça dépend. Enfin, les gens ne sont pas forcément sensibles au sens hostile et ne souffrent pas forcément de l'enrichissement des plus riches. Ça dépend de quel plus riche. En fait, ce qu'on voit dans les enquêtes, dans les expériences, etc., c'est que les gens sont peut-être sensibles, effectivement, à l'enrichissement des 1% les plus riches parce que, à ce moment-là, ce sont des gens qui sont dans un autre monde. Et donc, quand ils y pensent, et surtout quand on leur fait penser à ça, ça leur semble injuste et ça les humilie en quelque sorte. quelque sorte. Mais en fin de compte, c'est pas une énorme partie de leur vie et c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel pour eux, c'est plutôt que puis-je espérer. Et donc l'enrichissement même de gens qui sont situés au-dessus de soi peut être au contraire tout à fait stimulant et une bonne nouvelle. Et par exemple, dans l'entreprise, ce qu'on observe, c'est que les gens sont assez hostiles à la différenciation des rémunérations pour des niveaux de statut et de compétences égales. Mais en revanche, ça les gêne pas du tout qu'il y ait une hiérarchie des salaires qui correspondent à la hiérarchie des statuts, c'est-à-dire à la carrière. Je suis très content d'être dans une entreprise dans laquelle, si je progresse, je vais gagner plus et je vais avoir un profil de carrière ascendant. Donc, c'est pas si clair, en fait.
Mais oui, parce que là aussi, dans les inégalités, Claudia Sénic, celles qui sont finalement parfois les plus mal supportées sont les inégalités entre classes sociales proches. C'est-à-dire, ce ne sont pas les très riches.
Oui, oui, par ailleurs, parce qu'il y a deux choses dans les inégalités. Il y a la comparaison entre moi et autrui, dont je souffre si je suis en dessous, et puis il y a la perception générale des inégalités dans la société. Est-ce que j'aime ou j'aime pas l'inégalité ? En fait, on conduit des expériences, justement, de choix avec mes étudiants.
Par exemple, qu'est-ce que vous
avez fait ?
Et
donc, on demande aux gens de choisir plusieurs fois entre vous avez deux projets, A et B. B va toujours être plus égalitaire, et il y aura des rémunérations, des bonus au terme de ces projets, qui seront répartis entre vous et votre équipe de 5 personnes. Et donc, est-ce que vous préférez le projet où les rémunérations, les bonus seront plus égaux ou plus différenciés ? Donc, quand il est possible d'avoir un gâteau plus gros, c'est-à-dire une rémunération globale plus grande, les gens vont toujours choisir le projet le plus rémunérateur et le plus inégalitaire. Derrière le voile d'ignorance, comme dit Rawls, c'est-à-dire
Qu'est-ce que c'est le voile d'ignorance ?
Le voile d'ignorance, c'est quand on choisit une situation, un projet A ou B, sans savoir quelle sera sa position à soi dans le projet. Donc, derrière le voile d'ignorance, les gens choisissent quand même le projet qui offre le plus d'opportunités pour chacun. Une fois qu'ils savent à quelle place ils seront eux, à ce moment-là, ça change les choses. Et il y a 20% des gens qui sont prêts à choisir le projet dans lequel le gâteau sera plus petit, donc ils brûlent de l'argent pour réduire les inégalités. Donc il y a deux choses. Il y a une aversion des inégalités d'un côté, mais il y a quand même cette question des perspectives pour soi et du projet.
Ce qui montre que la rationalité économique est insuffisante, c'est-à-dire que le choix rationnel derrière le voile d'ignorance est contredit par un choix rationnel en situation réelle individualiste. Donc il faut compléter cette rationalité économique par une rationalité éthique, c'est-à-dire que en fait le voile d'ignorance devrait permettre de se mettre à la place de n'importe quelle autre personne.
Donnez-nous des exemples, Catherine Audard.
Des exemples, eh bien justement, la question de la santé, par exemple, les dépenses de santé sont très lourdes et par ailleurs, les personnes ont l'impression que leur statut personnel, leur accès personnel aux dépenses de santé sont insuffisantes. Donc, même chose, derrière le voile d'ignorance, se représenter le gâteau. Et essayer de voir comment le répartir le mieux possible. Et là, je crois que c'est un processus éducatif qui fait passer de la rationalité économique stricte, si vous voulez, individuelle, à un sens du gâteau, de l'ensemble, de la commune, de la collectivité.
Catherine Audard, votre livre « La démocratie et la raison » peut être perçu comme un plaidoyer en faveur de la social-démocratie et un peu partout, cette social-démocratie est en crise. On a l'impression que les intellectuels prêchent un peu dans le désert. Votre sentiment, justement, à ce sujet ?
Oh, je crois que la démocratie libérale a été attaquée de tous les côtés depuis très longtemps, que la défense des principes de base a été affaiblie par la virulence des questions identitaires, des questions d'appartenance, qui a pollué le débat politique depuis trop longtemps.
Et par exemple.
Mais si vous voulez, l'idée de l'identité, la question de l'identité nationale est venue perturber complètement l'idée, les valeurs républicaines fondamentales, si vous voulez, comme si on pouvait légitimement priver de leurs droits certaines populations en raison de leur origine ethnique ou de leur...
Mais alors vous qui vivez en Angleterre, qu'observez-vous à cet égard ?
Ce que j'observe, c'est une dégradation de la situation. C'est que, par exemple, le Parti conservateur est de plus en plus sous l'influence des politiques identitaires, souverainistes et autres, comme un peu partout en Europe, comme en Italie, par exemple. Mais malgré tout, tout dépend où on va dans le pays, qui est très différencié, mais malgré tout, il reste un fond de tolérance à l'égard de populations étrangères, ou enfin d'origine étrangère, en tout cas. Mais le problème, si vous voulez, c'est cette pollution du débat politique par ces questions identitaires.
Merci à toutes les deux, Clonia Sénic, merci Catherine Audard. La démocratie et la raison, actualité de John Rawls, c'est chez Grasset.